Laudetur Jesus Christus.
Le pape s'est bien reposé cette nuit, annonce faite il y a quelques minutes par le Saint-Siège. Nous ferons le point sur l'état de santé du Saint-Père juste après les titres dans son texte préparé pour l'Angélus hier. François remercie pour les prières des fidèles. Les Européens tentent de faire bloc et de trouver des solutions pour soutenir l'Ukraine et faire face à la Russie après le revirement de la politique étrangère américaine. Ils étaient réunis hier à Londres avant que les seuls 27 se retrouvent cette semaine à Bruxelles. À Moscou, Vladimir Poutine, lui, se félicite de la nouvelle politique américaine envers le conflit en Ukraine. Il fustige en revanche les Européens qui l'accusent de vouloir poursuivre la guerre. Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, une mesure de rétorsion pour contraindre le Hamas à prolonger la première phase de la trêve jusqu'à la mi-avril. Le mouvement palestinien veut lui passer à la seconde. Dans le dossier, nous reviendrons sur la directive européenne Omnibus qui vise à simplifier les normes pour relancer l'économie. Un train de mesures qui inquiète les défenseurs de l'environnement et des droits de l'homme. On en parlera avec le CCFD Terre Solidaire.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Le pape a donc passé une bonne nuit, annonce faite il y a quelques minutes par la salle de presse du Saint-Siège. Les conditions cliniques du pape François sont restées stables la journée d'hier. C'est ce qu'a rapporté en revanche hier soir la salle de presse. Le Saint-Père continue de recevoir de l'oxygène. Il n'a pas eu de fièvre. La crise isolée de bronchospasme de vendredi dernier n'a pas eu de conséquences directes. Hospitalisé depuis le 14 février au centre hospitalier romain Gemelli, l'évêque de Rome, Myriam Sorduno a donc assisté hier dans la matinée à la messe.
Oui, Xavier, le pape n'a pas eu besoin de ventilation mécanique non-évasive, mais seulement d'une oxygénothérapie à haut débit, indique le bulletin de santé publié. Cependant, compte tenu de la complexité du tableau clinique, le pronostic demeure réservé. Dans la matinée, l'évêque de Rome a participé à la messe, vous l'avez dit, en compagnie de ceux qui prennent soin de lui, alternant repos et prière. Le Saint-Père, qui pour la troisième fois consécutive n'a pas pu diriger la prière de l'Angélus du dimanche en raison de son état de santé, s'est tout de même adressé hier aux fidèles dans sa méditation préparée pour l'occasion et rendue publique. François les a remerciés pour leur prière, leur proximité et leur affection, sans oublier le personnel médical de l'hôpital Gemelli. Je me sens comme portée et soutenue par tout le peuple de Dieu et je sens dans mon cœur la bénédiction qui se cache dans la fragilité, a-t-il écrit. Pour lui, c'est précisément dans ces moments-là que l'on apprend à faire encore plus confiance au Seigneur. Et même dans cet état de maladie, le pape rassure de ses prières pour tous, surtout pour la paix dans le monde, car la guerre, a-t-il souligné, apparaît encore plus absurde.
Myriam Sorduno est bien sûr pour suivre sans attendre l'évolution de la santé du pape. Rendez-vous sur notre compte X ou sur notre page internet. Après la secousse en direct vendredi à la Maison-Blanche, l'altercation entre Donald Trump, son vice-président, J.D. Vance et Volodymyr Zelensky, quelle allait être la réaction des Européens? Eh bien, hier à Londres, 18 dirigeants du continent, mais aussi le Premier ministre canadien et le président turc, se sont retrouvés autour du chef du gouvernement britannique. Tous se sont engagés à faire plus pour la sécurité du vieux continent face à l'agression russe. L'Europe doit faire le gros du travail, admis Keir Starmer, mais pour réussir, cet effort doit être étayé par les États-Unis, a-t-il souligné. À Londres, les détails avec Jean Jaffray.
En effet, des membres de l'OTAN se sont engagés à augmenter leur budget défense. Son secrétaire général, Mark Rutte, s'en est félicité. Jeudi prochain, lors d'un sommet spécial de l'Union européenne, sa présidente, Ursula von der Leyen, présentera un plan global de sécurité et de réarmement de l'Europe, allant de la survie économique à la résilience militaire. De nouvelles sanctions seront aussi annoncées. Mais le dirigeant hongrois Viktor Orban, qui appelle à négocier avec Vladimir Poutine, ainsi que les dirigeants slovaques et tchèques, n'en seront pas partie prenante. Selon le chancelier allemand Olaf Scholz, l'Ukraine est victime des agressions russes. C'est un fait indiscutable aux yeux de tous, a-t-il martelé. Enfin, le Premier ministre polonais Donald Tusk a estimé pour sa part que tout doit être fait, je cite, pour garantir que l'Europe et les États-Unis parlent d'une seule voix. Par ailleurs, cette réunion a été l'occasion de manifester un soutien appuyé à Volodymyr Zelensky après son altercation avec le président américain qui le recevait à la Maison-Blanche. Donald Trump, affirmant qu'il était en mauvaise posture, lui avait ordonné de négocier avec Poutine, faute de quoi les États-Unis le laisseraient tomber. Reste à savoir si la Grande-Bretagne pourra continuer de faire le pont entre l'Europe et les États-Unis. Londres, Jean-Jaffré, Radio Vatican.
Et parmi les propositions concrètes, celle de Londres et Paris d'une trêve partielle d'un mois en Ukraine dans les airs et sur les mers, concernant notamment les bombardements des infrastructures énergétiques. Les opérations terrestres sont exclues, le front étant trop long pour vérifier la pause des combats. Le président ukrainien, fort de ce soutien des Européens, confirme qu'il travaille avec eux à des positions communes pour tenter de convaincre Donald Trump de prendre en compte les intérêts des Ukrainiens. L'objectif, assure Volodymyr Zelensky, c'est d'obtenir une paix solide et durable et un bon accord concernant la fin de la guerre. Et le chef de l'État ukrainien va avoir du travail, car en jugé les dernières déclarations des autorités américaines, l'échec de la rencontre de vendredi à la Maison-Blanche n'est pas passé. Donald Trump persiste. Zelensky n'aura d'autre choix que de rétro-pédaler et accepter les termes posés par Trump, écrit-il sur son réseau Truth Social. Quant à son conseiller à la sécurité nationale, il estime que Volodymyr Zelensky est un vrai problème, sous-entendant qu'il serait préférable qu'il quitte le pouvoir. Ces dissensions entre ceux qui étaient encore alliés il y a quelques semaines ne font que réjouir les autorités russes. D'un côté, Moscou se félicite de la nouvelle politique étrangère de Washington. De l'autre, le Kremlin critique les pays européens bien décidés à ne pas laisser tomber l'Ukraine. Pour Vladimir Poutine, de toute façon, les objectifs sont toujours les mêmes et il est bien décidé à les atteindre. À Moscou, j'en dis revoir.
À Moscou, les médias et les autorités se plaisent à mettre en évidence les contradictions qui sont apparues le week-end dernier entre Washington et ses alliés européens. Pour la diplomatie russe, en décidant d'accroître leur soutien à Volodymyr Zelensky, les pays européens exigent la poursuite de la guerre. Un commentaire diffusé avant la tenue d'un sommet dédié à la sécurité du continent qui réunissait hier à Londres la quasi-totalité des membres de l'Union européenne pour décider d'une augmentation de leurs dépenses militaires et tenter d'offrir des garanties de sécurité à Kiev. Mais dans le même temps, le Kremlin se félicite de la réorientation de la politique étrangère. Après l'affront essuyé par Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche vendredi, le porte-parole du Kremlin a estimé que le changement radical de la politique étrangère américaine correspondait à la vision de la Russie. Les affaires étrangères russes ont souligné le pragmatisme d'un Donald Trump animé par le principe du bon sens, tout en soulignant que les objectifs de la Russie en Ukraine restaient inchangés. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Au Proche-Orient, les pays arabes unis contre la décision d'Israël de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Le gouvernement israélien fermait hier les points de passage vers la bande de Gaza, privant ainsi à nouveau 2 300 000 enfants et adultes de toute nourriture et produits de base. Motif de cette décision, le refus du Hamas de prolonger la première phase de l'accord de cessez-le-feu, le mouvement palestinien voulant au contraire commencer les négociations pour l'application de la seconde phase. Valérie Ferron.
En fait, ce qu'a réellement fait le Hamas, c'est de réaffirmer son engagement à appliquer l'accord de cessez-le-feu tel qu'il a été signé. Il a donc rejeté toute possibilité d'en dévier. Le mouvement est donc prêt à retourner à la table des négociations, mais uniquement pour discuter avec les médiateurs des modalités de la deuxième phase, qui prévoit notamment le retrait total de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Le chef du Hamas, Mahmoud Mardawi, a également précisé que seul le respect de l'accord permettra à la puissance occupante de récupérer les Israéliens capturés. Bloquer l'entrée de l'aide humanitaire est perçu comme un moyen de pression immorale qui ne fera pas céder le Hamas sur ses principes. La décision israélienne vient en fait nous rappeler que même lors de cette première phase du cessez-le-feu, eh bien Israël a poursuivi sa guerre contre les populations civiles palestiniennes en continuant d'entraver sérieusement l'entrée de l'aide humanitaire et en bombardant périodiquement ce territoire. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées dans la bande de Gaza durant la première phase de ce cessez-le-feu.
Valérie Ferron à Jérusalem. Alors si les pays arabes critiquent la position israélienne, l'Union européenne regrette le refus du Hamas d'accepter une extension de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Les 27 critiquent dans le même temps blocage par Israël de l'aide humanitaire. Bruxelles appelle à une reprise rapide des négociations de la seconde phase. La transition en marche en Syrie. Un comité d'experts était chargé hier par le président par intérim, Ahmad al-Sharré, de rédiger un projet de déclaration constitutionnelle pour construire un état de droit durant la phase de transition. 7 personnes le composent, dont 2 femmes. Aucun calendrier n'a été précisé. « Omnibus. Derrière ce nom, une directive européenne qui inquiète les défenseurs de l'environnement et des droits de l'homme. Votée la semaine dernière par la Commission européenne, Omnibus est officiellement un ensemble de mesures pour simplifier l'économie européenne, mais qui détricote le pacte vert européen, adopté en 2020 pour permettre la neutralité climatique de l'Europe en 2050. Dans une tribune partagée lors du vote d'Omnibus en commission, 240 chercheurs et économistes faisaient part de leur inquiétude quant à l'abandon par l'Union européenne de ses ambitions écologiques. Ce train de mesures doit maintenant passer par le Parlement et le Conseil européen pour être adopté définitivement. Concrètement, la directive Omnibus supprimerait d'abord le devoir de vigilance des entreprises européennes. Alors de quoi parle-t-on et pourquoi ces mesures du pacte vert mises en danger sont essentielles pour l'avenir de l'Union européenne? La réponse de Clara Libert, chargée de plaidoyer au CCFD Terre Solidaire.
C'est vrai que derrière le terme devoir de vigilance, ça peut paraître un peu technique, un peu flou, il y a des réalités très concrètes. En France, par exemple, en 2017, avait été adoptée une loi sur le devoir de vigilance qui faisait suite notamment à un drame qui est connu par beaucoup, qui est celui de l'effondrement du Rana Plaza, une usine de confection de vêtements qui s'est effondrée sur plus de 1116 personnes, principalement des ouvrières au Bangladesh. Et en fait, ces ouvrières et ces ouvriers avaient alerté. Ça avait créé une onde de choc et on s'était dit c'est plus possible sous prétexte de chaîne de valeur mondialisée, de recherche permanente de profit, de permettre ce genre de drame. Et donc il y avait eu un élan en France notamment qui avait permis l'adoption d'une loi, ce qu'on appelle la loi sur le devoir de vigilance, qui demande aux multinationales sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, donc sur l'ensemble de leur chaîne de production et de distribution d'un produit ou d'un service, de respecter les droits humains, de respecter l'environnement, de respecter la sécurité travail, la santé. C'est donc un cadre réglementaire qui est contraignant, qui demande aux entreprises de prévenir ces risques, de réfléchir à qu'est-ce que mes activités font peser comme risque aux autres.
Une autre mesure essentielle du pacte vert qui est détricotée par Omnibus, c'est la directive de publication sur la durabilité. De quoi parle-t-on ?
C'est un texte qui demande aux entreprises de publier une série d'indicateurs qui permettent notamment aux investisseurs de savoir où est-ce qu'ils investissent. Est-ce que l'entreprise dans laquelle ils avaient prévu d'investir sur le plan environnemental, par exemple, ou climatique, quelles sont ces émissions de gaz à effet de serre ? C'était une série d'indicateurs extra-financiers donc, qui permettent de donner de la visibilité sur les activités d'une entreprise et donc qui permet aux investisseurs de se poser à l'heure du réchauffement climatique et de la lutte contre le changement climatique s'il faut ou non investir dans cette entreprise ou non. Et là, pareil, il y a eu tout un mouvement, pas de simplification, mais bien de dérégulation de ce texte en venant limiter et réduire à peau de chagrin le nombre d'entreprises qui sont concernées par ce texte-là.
La rhétorique des défenseurs d'Omnibus, c'est que ces réglementations s'opposent à la compétitivité. Que répondre à cet argument ?
On peut répondre que c'est vraiment une fausse définition à notre sens de la compétitivité. Si on prend la compétitivité qu'avec ce genre de prisme, c'est-à-dire purement financier, purement économique, on fait fausse route. Parce qu'il y a des pays comme la Chine, des régions comme l'Amérique du Nord qui sont bien plus avancées que le marché européen. Et du coup, la plus-value du continent européen, c'était de se dire on a ces normes socio-environnementales plus élevées que d'autres. Et c'est ça aussi qui fait la plus-value, la valeur d'une entreprise.
Dans votre communiqué, vous estimez aussi que cette directive est signe d'affaiblissement démocratique. Que voulez-vous dire par là ?
Parce qu'en fait, derrière ces législations, c'est des années et des années de travaux au sein notamment du Parlement européen. Donc le Parlement européen qui est le co-législateur le plus démocratique, puisque c'est vraiment des élus qui ont été votés par citoyenne européenne, contrairement à la Commission européenne ou au Conseil européen. Et on vient finalement d'un revers de la main dire en fait, toutes ces années, tous ces travaux du Parlement européen, on s'en fiche. L'important, c'est de simplifier la vie des entreprises. Donc, on propose, en catastrophe et en moins de 5 mois, sans faire aucune consultation valable, bien de proposer un texte où on ne sait, on ne sait pas d'où il sort, mais on sait très bien quelles sont les demandes qui ont été reprises. Si on regarde les demandes, par exemple, des lobbies économiques et des associations patronales, eux, toutes leurs demandes ont été reprises. Par contre, tous les travaux du Parlement européen n'existent plus.
Interrogée par Marina Rio, Clara Libert du CCF des Terres Solidaires était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, notre compte X ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.